Je suis amenée à vous donner un petit partage. Ce n'est pas un enseignement, loin de là, je n'ai pas fait d'études théologiques. Alors pardonnez-moi si je dis des petites bêtises. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on a toute la gamme pour en parler. Alors j'avais à cœur de parler du jugement, des mauvaises paroles, des murmures, des rumeurs. Et chacun a dans la tête la dernière affaire qui s'est passée dans le Nord, l'affaire d'Outreau. Chacun connaît l'histoire et on a pu voir les conséquences désastreuses d'un jugement, d'un mauvais jugement, d'une erreur de jugement. Bon, c'était pourtant un jugement fait par un professionnel parce que c'est un juge, il apprend pour ça, il y a des éléments pour. Et on voit quand même des catastrophes face à ce jugement qui est faux. On retrouve des personnes blessées, meurtries. Elles ont tout perdu, leur honneur, leur réputation, leur travail, leur vie de famille. Leur vie est détruite et il y a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves parce qu'il y a de la dépression, il y a voire des suicides. Donc, je voudrais reprendre quelques définitions. Dans le tribunal, on a donc l'accusé, on a le juge. Donc, la définition de juger, c'est donner un avis, imaginer, estimer, penser que, décider que, considérer que, avoir un certain avis, critiquer, arbitrer, émettre une opinion ou une rumeur. En général, le juge, c'est celui qui demande qu'on coupe la tête de l'accusé. Mais Dieu ne nous a pas demandé de juger. Psaume 75, verset 6. Cessez vos discours effrontés, car celui qui juge, c'est Dieu, abaissant l'un, relevant l'autre. Hébreux 9, verset 27. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Ensuite, en face du juge, on a l'avocat. L'avocat, c'est celui qui conseille, qui défend, qui sert, qui intercesse. C'est notre représentant, notre négociateur. Job 9, verset 25. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant. Vous savez tous qui c'est. 1 Jean 2, verset 1. Nous avons tous un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Je n'ai pas retrouvé de passage où il nous est demandé de juger. Mais je vais vous rassurer parce que même les apôtres critiquaient et murmuraient. J'ai retrouvé Jean 6, verset 61, Jésus s'aperçut que ses disciples critiquaient, murmuraient. Si vous voulez savoir pourquoi, vous irez relire. Donc Dieu ne nous a pas demandé de juger, on outrepasse ses droits quand on juge. Jacques 4, verset 11, frères, ne dites pas de mal les uns des autres, or c'est Dieu seul qui peut juger. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Jean 8, verset 15, vous jugez à la manière des hommes, moi je ne juge personne. Jean 12, verset 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le condamne, car je suis venu pour sauver le monde et non pour le condamner. J'ai repris deux passages dans la Bible qui m'ont parlé et dans lesquels on montre que Jésus n'est pas venu pour condamner. Et pourtant, il y avait matière à condamner, hein, je vous le dis. Alors, 1 Luc 22, c'est verset 34. Je ne reprends pas la parole exacte, hein. J'abrège un petit peu. Donc, 1 Luc 22, verset 34, il y a Jésus qui annonce à Pierre qu'il va le renier par trois fois. Donc, on se rappelle des circonstances, il y a Jésus qui se fait arrêter. Et donc, par trois fois, on voit, verset 57, Pierre va renier Jésus. Donc, je vais reprendre quand même le verset 60. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. On parle de Pierre, hein. Le Seigneur s'étant retourna, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Donc là, c'est même pas par une parole, c'est par un regard. Vous savez, des fois, les papas qui sont autoritaires, ils regardent les enfants qui font des bêtises, et les enfants ils regardent, et puis rien qu'au regard, ils s'arrêtent parce qu'ils savent qu'ils ont fait mal. Et là, Jésus, je pense que... C'est une interprétation, c'est moi qui le ressens comme ça. Je pense que le regard de Jésus pour Pierre, c'est pas un regard de condamnation. Tu vois, t'as fait ça, hein, je te l'avais bien dit, hein, tu m'as laissé tomber, toi qui voulais donner ta vie pour moi et me défendre. Je pense pas que ce regard était un regard de condamnation ni de jugement. Je pense que c'était un regard d'amour, de compassion. Tu vois, Pierre, je savais bien ce qui allait t'arriver. Mais je te pardonne, t'es mon ami. Je t'aime. Tu sais, j'aurais fait la même chose à ta place. Et est-ce que nous, quand on juge, est-ce qu'on cherche à savoir pourquoi les gens ont fait les choses qui nous ont blessés? Est-ce qu'on condamne? Alors, j'ai un autre passage à vous partager. Jean 8, versets 1 et 11. La femme adultère. On se souvient que la femme a été prise en état d'adultère et à l'époque, elle devait être jugée, lapidée. Elle devait être lapidée. Donc les pharisiens qui veulent donc tester Jésus, on va dire, lui demandent de ce qu'il veut faire. Et puis Jésus reste imperturbable, voilà. Il est assis, voilà. Je sais pas, il n'est pas stressé, il n'est pas énervé, non, il reste calme. Et puis, voilà, la parole qui tue. Enfin, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Alors, à cette parole, les accusateurs, ils viennent les accuser un petit peu. Ils sont accusés par leur conscience. Regarde-toi un petit peu, tu veux tuer la femme, mais toi, est-ce que tu fais mieux? Tu étais peut-être un de ses clients, je ne sais pas. Est-ce que tu es mieux que cette femme pour la juger, pour la lapider? Alors donc, ils font tous leur examen de conscience et puis tous s'en vont. Et quand Jésus se retrouve avec la femme, il ne commence pas à lui faire des blablabla, il ne lui fait pas la morale. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Non. Ces paroles d'amour, enfin, je pense qu'il doit avoir un regard d'amour aussi, là. Femme, va et ne pêche plus. Je sais ce que tu vaux. C'est pas ça. T'es pas comme ça. Tu vaux mieux que ça. Je t'aime, alors continue et ne pêche plus. Là aussi, il aurait pu la condamner et puis crier au loup. Allez, on la lapide, allez. Elle a mal fait et... Mais non, c'est vraiment pour vous montrer que Jésus n'est pas venu pour juger. C'est nous qui le faisons. Alors, est-ce que nous, on est dans la meute? On crie au loup, allez, il faut la lapider. On ne cherche pas à savoir pourquoi elle fait ça. On n'essaye pas de la défendre. On ne cherche pas à gratter sous sa carapace. Ou est-ce qu'on essaye de calmer les esprits en essayant de comprendre, en essayant de calmer les autres et puis dire, si elle fait ça, il y a sûrement une raison qu'on ne connaît pas. Il y a son passé, il y a un tas d'éléments qui fait qu'elle agit comme ça. Est-ce qu'on fait son propre examen de conscience? Est-ce qu'on balaye devant sa porte avant de juger, de critiquer? Matthieu 7, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est très facile de juger, hein, et c'est tout aussi facile d'utiliser sa langue. Proverbe 6, verset 16. Alors là, je ne veux pas vous décourager, mais bon, c'est un avertissement quand même. Hein. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. C'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il déteste. Donc c'est autre chose. Hein. Et il ne supporte absolument pas. Donc je ne vais pas vous les citer. Je vais vous citer celles qui sont en rapport avec mon message. Une bouche qui trompe. Donc parole. Un faux témoin qui débite des mensonges. Encore des paroles. Et il en rajoute une 7e. L'homme qui sème la discorde entre ses frères. Un Jacques 3. 3, verset 5. La langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Attention à ce que nous pouvons dire. Nos paroles peuvent avoir une puissance créatrice, c'est-à-dire encourager, calmer la colère, apporter la joie, réconforter. Mais elles peuvent avoir aussi une force destructrice. Salir une personne, l'humilier, la blesser. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. C'est à la portée de tout le monde de parler mal des autres. Et je pense que c'est toujours un échec personnel, hein, parce que ça n'avance à rien, ça ne règle pas nos problèmes avec les autres. C'est vrai que notre nature va toujours trouver des excuses. Oh, c'est pas pour critiquer, puis on se donne bonne conscience. Attention, Proverbe 18, verset 8. Les paroles du reporter sont comme des friandises. Oh, c'est vrai. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles, mais attention, dégâts. Ça, c'est moi qui le rajoute. On pense que parler mal des autres, ça soulage, ouais, ça fait du bien. Mais bon, en général, les personnes qui sont critiquées ne sont pas là. Donc, ça ne les touche pas. On se détruit plutôt nous-mêmes parce qu'on empêche les bénédictions de Dieu. Alors, un petit conseil. Fermez vos oreilles si, quand on vous parle, ce n'est pas charitable. Et refusez la rumeur. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment dans la parole. Quand on vient vous parler mal d'une personne, essayez au contraire de trouver des qualités pour cette personne. Et puis priez pour elle. Je pense que critiquer, c'est un manque d'amour. Alors, on connaît bien tous ces commandements. Le premier, c'est « tu aimeras ton Dieu ». Et le deuxième commandement, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, lorsqu'on critique, est-ce qu'on aime son prochain? Je pense pas, hein, pas vraiment. Jésus nous dit aussi « ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais ». Donc, si on s'en prend à notre prochain, on s'en prend à Jésus aussi. Je pense que ça ne sert à rien de critiquer et de juger. Ça n'avance à rien. Je pense qu'au contraire, parler mal des autres, c'est entrer dans le domaine du diable. Parce qu'on pêche. Il y a certaines citations avec la langue. Il faut tourner cette fois sa bouche dans sa langue. Sa langue dans sa bouche, pardon. Excusez-moi. Avoir une langue bien pendue. Avoir une langue de vipère, pour en revenir à Satan. La vipère, c'est qui dans la Bible? Le serpent, c'est bien Satan, hein, avec sa langue fourchue. Alors quand il vient vous parler, vous savez, un petit peu comme dans le livre de la jungle avec Mowgli, il y a un moment donné, il y a le serpent qui essaye d'endormir Mowgli. Alors il y a des cibles là, il est en train de l'hypnotiser. Et confiance. Alors c'est la même chose quand les gens viennent. Oui, c'est vrai, t'as raison, il a fait ça, il n'est pas digne d'eux. Non. Et puis on se laisse endormir. Et puis on rentre dans un domaine dangereux parce que c'est Satan qui nous dirige. Et en général, ce qui anime nos mauvaises paroles, ce ne sont pas des sentiments d'amour. C'est la colère. C'est la colère, la jalousie. C'est vraiment pas les... C'est pas les sentiments d'amour, non. Quand on répond, quand on est en colère, c'est pas des sentiments d'amour. Et on se souvient bien, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour supporte tout. Et un petit peu comme Colette, quand il nous arrive avec Joël parfois, au lieu de mettre l'amour, on met son prénom et ça donne une autre dimension. Monique est patiente. Monique supporte tout. Aïe, 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 je vous conseille de le faire. Mais il faut combattre cela et le Seigneur nous donne des armes pour le faire. Heureusement, parce que nous-mêmes, on est fait de chair et c'est difficile de combattre ça, de combattre nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Et le Seigneur, pour y parvenir, il nous a donné sa parole. Vous savez, je vous conseille vraiment de faire un petit partage parce qu'on trouve une foule de choses. Et donc, il faut apprendre à utiliser sa langue avec l'aide de la Bible, qui est une parole de vie. Elle contient de grandes richesses et d'excellents conseils. Jacques 1, verset 21, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Proverbe 7, verset 1, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-la sur la table de ton cœur. » Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Donc je pense que comme nous n'avons pas les pensées de Dieu, c'est pas moi qui le dis non plus, hein. Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. » Donc je pense qu'il est nécessaire de mémoriser les Écritures pour s'imprégner des pensées de Dieu. Bon, il y a bien sûr, l'essentiel c'est garder notre relation avec lui. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Donc si on veut être imprégné des pensées de Dieu, il faut d'abord sa relation, notre relation avec lui. Mais il faut aussi méditer sa parole, il faut la ruminer, il faut vraiment la travailler tous les jours. Je pense que c'est un travail à faire, mais c'est pas un sacrifice, ça va nous aider. Parce que même le Seigneur, même Jésus a utilisé la parole pour faire barrière à Satan. Quand il a été emmené dans le désert, il a employé la parole. Matthieu 4, l'Écriture déclare, c'est Jésus qui le dit. Donc je vous invite vraiment à méditer la parole, à vraiment l'apprendre, il faut l'apprendre. Les pensées de Dieu vont façonner alors notre esprit et changer notre mentalité pour renouveler nos pensées. On a aussi, après la parole, il y a aussi le Saint-Esprit. Dans certaines situations, le Saint-Esprit va nous rappeler la parole. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Soumettez votre langue au Saint-Esprit. Souvenez-vous, à la Pentecôte, comment s'est manifesté le Saint-Esprit si ce n'est par des langues de feu. Alors je ne pense pas que c'était un feu ravageur pour tout détruire, mais c'était un feu qui réchauffe et qui éclaire. Devenons donc les imitateurs de Dieu. Éphésiens 5, verset 1. Décidons de nous concentrer sur les principales priorités de la vie, de notre vie. C'est un choix quotidien. Notre rôle en tant que chrétien, c'est quoi ? En tant que disciple de Christ, notre première priorité, c'est de partager avec les autres l'amour de Jésus-Christ. Si je critique, si je fais des rumeurs, je ne pense pas que c'est partager l'amour de Christ. Ce n'est pas être son imitateur. Notre vocation première, c'est d'être les témoins de Jésus-Christ sur terre, donc de partager son amour. 1 Pierre 3, verset 8. « Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Notre devoir aussi, c'est de soutenir par nos paroles ceux qui souffrent, de les fortifier, de relever ceux qui sont abattus, les encourager. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Alors, on a beaucoup de travail. Et ce que je vous partage, ce n'est pas pour apporter un jugement, ni pour vous dire « attention, je ne veux pas être légaliste, hein. Fais pas ci, fais pas ça, non. » Non, mais quand on a l'amour du Christ, le Seigneur il nous avertit. J'ai été une fois reprise, enfin, plus d'une fois, hein. Je vous rassure, hein. Je ne suis pas mieux que vous. Mais j'étais dans une réunion, c'est un petit partage là. J'étais dans une réunion, dans un conseil de fac, et puis vous savez, il y a des points du jour qui nous intéressent, donc on participe. Puis il y a des points du jour où on s'endort et puis on se laisse aller dans ses pensées. et j'étais dans des mauvaises pensées parce que je critiquais mon directeur et il ne devrait pas faire ci, ce serait mieux comme ça. Bon, j'ai oublié de balayer devant ma porte. Hein. Et j'ai reçu un texto. Hop, le Seigneur m'a Jésus. Je suis mort aussi pour lui. C'est mon enfant. Voilà, j'ai pris un aller-retour là. Hein. Alors je me suis dit, Seigneur, j'ai demandé pardon parce que c'était pas bien. J'ai demandé pardon et puis j'essaye maintenant d'aller à contre-courant quand je pars dans des mauvaises pensées. J'essaye de bénir. Seigneur, bon, je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il fait, mais bénis, Seigneur. Et je pense que c'est le Saint-Esprit vraiment qui nous éclaire parce que c'est vrai que notre nature charnelle, malheureusement, on se laisse vite emporter par nos mauvaises pensées. Et voilà. Alignez vos paroles sur votre cœur et proclamez la parole vivante et efficace de Christ. Alors, conclusion, c'est ce qu'il faut, une conclusion. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Jean-Luc a appris la semaine dernière, soyons les ambassadeurs. Alors moi je reprends, soyons les diplomates. Certains pensent au gâteau. Bon, on peut être du gâteau, hein. Soyons du bon pain. Donc, soyons un gâteau pour les autres. Mais le diplomate, c'est celui qui fait preuve de tact et d'habileté dans les relations avec les individus. C'est un médiateur, c'est un ambassadeur. Il est adroit, avisé, habile, émissaire, négociateur, parlementaire, souple, subtil, conciliant, représentant. Aïe, 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 aïe. Je vous encourage vraiment à le devenir et à persévérer dans cette voie. Merci de votre attention. Et puis, ben, c'est pas facile, mais je vous encourage vraiment à travailler sur un thème parce que il y a tellement de choses, on découvre tellement de choses, c'est tellement riche la Bible. Le Seigneur est vraiment merveilleux, il nous a donné un outil vraiment indispensable, je crois. Merci.